Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais prendre un temps de prière avant de commencer cette prédication. Seigneur, tu es venu sur cette terre pour donner ta vie pour nous, mais tu nous as aussi laissé ta parole. Et nous voulons ce matin, Seigneur, l'ouvrir et nous laisser enseigner par toi. Je me recommande à toi pour cette prédication et je voudrais associer à cette prière tous ceux qui annoncent ta parole en ton nom dans tes églises locales aujourd'hui. Amen. Alors je vais commencer cette prédication par une petite question qui paraît bien simple. Qui est Marie dans la Bible ? Alors on va peut-être laisser les quelques enfants qui restent répondre s'ils le veulent, sinon les adultes pourront le faire. Qui est Marie dans la Bible ? Bien sûr, on pense à la mère de Jésus, mais est-ce qu'il n'y a qu'une seule Marie dans la Bible ? Parce que ce matin, on va parler d'une Marie, mais ce n'est pas de celle-là qu'on va parler. Alors, de qui peut-il bien s'agir ? Quelle autre Marie ? La sœur de Marthe, Marie, Marthe et Lazare. Marie de Magdala, Marie-Madeleine, qui est présente dans la Bible à trois reprises, et notamment elle est au pied de la croix et c'est elle qui est au tombeau aussi. Et puis là, je ne vais pas vous laisser attendre plus longtemps parce que j'ai dû ouvrir le dictionnaire biblique pour trouver les deux autres, même s'il y en a une des deux que j'avais lue récemment. Il y a Marie là, qui est la mère de l'apôtre Marc. Quand Pierre est emprisonné et que les apôtres se réunissent pour prier et qu'il est libéré, il prie dans la maison de Marie, la mère de Jean-Marc. Et puis il y a une cinquième Marie, celle-là j'avoue je ne la situe pas trop dans l'écriture, qui est mère de l'apôtre Jacques le mineur. Parce que si vous avez révisé vos leçons, il y a un Jacques le majeur aussi. Il y a deux apôtres Jacques. Voilà, alors ce matin, dans le texte de Marc 14, les 26 premiers versets, nous allons rencontrer l'une de ces Maries. Pour préciser le contexte, au chapitre 10, Jésus a annoncé aux disciples qu'il se rendait à Jérusalem, où il serait livré aux principaux sacrificateurs, condamné à mort, crucifié, mais qu'il ressusciterait trois jours après. Et ce qu'il a annoncé aux disciples est sur le point de se réaliser, puisque les faits qui nous sont rapportés au chapitre 14 se situent deux jours avant la Pâque, comme nous pouvons le lire dans les deux premiers versets. J'ai intitulé ce passage « Le complot », vous allez tout de suite comprendre pourquoi. « On était à deux jours de la Pâque et de la fête des pains sans levain. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient un moyen de s'emparer de Jésus par ruse et de le faire mourir. » Car il se disait, il ne faut pas agir pendant la fête pour ne pas provoquer d'émeutes parmi le peuple. À l'époque, Jérusalem comptait environ 80 000 habitants, mais durant les fêtes de la Pâque, une foule très nombreuse, que John MacArthur évalue à 2 millions de personnes, je ne sais pas si vous imaginez, à l'époque, assistait aux cérémonies de la Pâque à Jérusalem. Et on peut penser que cette année-là, il y a peut-être encore plus de monde que d'habitude parce que la renommée de Jésus s'est accrue. Et dans un texte parallèle à celui de ce matin, Jean précise que beaucoup sont venus à Béthanie, qui est à côté de Jérusalem, pour voir Lazare. Lazare le ressuscité. Il y a des raisons pour qu'il y ait du monde qui vienne. Et on comprend que les sacrificateurs se disent « c'est peut-être pas le moment de créer une émeute, il y a vraiment trop de monde, on n'arriverait pas à gérer tout cela ». Alors ils se disent, bon, si on arrivait à le capturer, à le mettre à mort, probablement que ça créerait un tel choc que les gens seraient désespérés et donc on leur couperait l'herbe sous le pied, si on peut dire. Le texte qui nous intéresse ce matin va se décomposer en plusieurs scènes. La première que nous venons de voir, une femme, on verra que c'est une des Maries, qui oint Jésus avec du parfum, puis Judas qui scelle un pacte avec les principaux sacrificateurs, puis les préparatifs de la Pâque, et enfin Jésus, ah oui pardon, quand je dis enfin non, c'est l'avant-dernier, qui va désigner celui qu'il trahit, et l'institution de la scène, Et c'est pour cette raison que j'ai suggéré à Dino de faire la prédication avant, puisqu'on va terminer en parlant de la scène, même si ce n'est pas le thème que je vais développer ce matin prioritairement. Ce matin, j'ai choisi de m'intéresser plus particulièrement à Marie et à Judas. Alors on va lire le premier passage qui nous parle de Marie. Alors vous allez peut-être être surpris, en fait, dans Marc, on ne dit pas que c'est Marie, c'est dans l'évangile de Jean qu'on nous précise que c'est Marie, la sœur de Lazare. Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux. Pendant le repas, une femme s'approcha de lui, tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de nard pur de grande valeur. Elle cassa le col du flacon et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns s'en indignèrent et murmurèrent entre eux, « Pourquoi gaspiller au saint ce parfum ? On aurait pu le vendre et en tirer plus de 300 pièces d'argent qu'on aurait donné aux pauvres. » Et ils ne ménagèrent pas leurs reproches à cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la donc tranquille. Pourquoi lui faites-vous de la peine ? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est une belle action. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous et vous pourrez leur faire du bien quand vous le voudrez. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Cette femme a fait ce qu'elle pouvait. Elle a d'avance embaumé mon corps pour préparer mon enterrement. Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où l'Évangile sera annoncé, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle vient de faire. Jusqu'ici, pour l'instant, la lecture de la parole. On apprend que cette femme, c'est Marie dans l'évangile de Jean. Donc Jean chapitre 12, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper, Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Mais Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Donc c'est donc Marie, la sœur de Marthe et de Lazare. Et vous vous souvenez de la première fois où on parle de cette Marie-là ? Marie et Marthe, ça vous évoque quoi ? Quel passage ? Voilà. Je vais prendre le temps de lire cela. On le trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 10, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fit-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » En fait, je me rends compte que je n'ai pas lu le passage où on nous dit que Marie est assise au pied de Jésus et qu'elle l'écoute simplement, pendant que Marthe, elle, vaque aux occupations de la maison. Et on constate une chose, c'est que dans les deux récits où on voit Marie, eh bien, elle est critiquée. La première fois, parce qu'elle reste assise au pied de Jésus à écouter ses paroles. Et j'ai lu dans un commentaire que ce n'est pas une attitude habituelle à l'époque. J'ai envie de dire, aujourd'hui non plus, enfin je ne sais pas, quand on reçoit, en général, il est rare que la femme reste assise à écouter les conversations et que ce soit le mari. Enfin, je suis le premier à être comme ça, hein. Je veux dire, je ne lance pas de critique, mais bon, ce n'était pas qu'à l'époque que c'était rare. Au contraire, Marthe, elle s'agite dans tous les sens. Et on constate que dans les deux cas, eh bien, Jésus prend la défense de Marie. Face à sa sœur qui s'agite, Jésus dira « Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Et la seconde fois, il dit « Marie, pardon, cette femme a fait ce qu'elle pouvait. » Elle a d'avance embaumé mon corps pour préparer mon enterrement et je vous l'assure dans le monde entier, etc. Marie apparaît donc comme une femme qui a du discernement. Elle sait faire les bons choix, les choix qui sont approuvés par Jésus, quitte à être critiquée par les autres. C'est vrai que si on se place du point de vue de Marthe, faire en sorte qu'un invité soit bien reçu, c'est une bonne chose. Vous n'invitez pas les gens chez vous pour les négliger. Vous prenez soin d'eux. Bon. Se soucier des pauvres, comme l'envisagent les disciples, c'est une bonne chose aussi. Jésus répond au jeune homme riche qui lui demande comment être sauvé, « ben, si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Et si on regarde bien les deux réponses de Jésus, Jésus ne dit pas « il est préférable de rester assis aux pieds à m'écouter, il est préférable d'oindre du parfum plutôt que de garder l'argent pour les pauvres. » Je pense plutôt qu'il dit « il y a un temps pour tout », pour paraphraser l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour écouter la parole de Dieu, Marie a su le discerner. Il y a un temps pour honorer Dieu, Marie a su le discerner. Vous aurez toujours les pauvres avec vous, dit Jésus, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas pour toujours. Est-ce que Marie a compris mieux que les autres les temps qu'ils vivent ? Jésus leur a annoncé à plusieurs reprises ce qui va se passer. Est-ce que l'intuition féminine est une réalité dans ce cas-là ? Je suppose, mais peut-être parce que je suis un homme, qu'elle est comme beaucoup de disciples, encore un peu dans le brouillard, mais elle doit quand même sentir qu'il y a quelque chose qui se passe. Jésus annonce des choses bizarres, il va mourir, etc. Et là, elle a une occasion, alors elle prend cette occasion et elle fait ce qu'elle a pu, dit Jésus. Je ne sais pas comment vous comprenez ces quelques mots. Elle a fait ce qu'elle a pu. Pas plus, mais pas moins. Et ça, je pense que c'est une leçon pour nous aussi. On n'est pas forcément appelé à faire plus que ce qu'on est capable de faire. On ne va pas se fatiguer à essayer d'en faire toujours plus. Mais on ne va pas non plus se reposer sans arrêt en faisant moins que ce qui est possible. Mais revenons à ce que Marie a fait. Elle a parfumé le corps de Jésus avec un nard de grand prix. Alors, je ne sais pas si vous utilisez souvent le mot nard dans vos conversations. Moi, jamais. Alors j'ai ouvert un dictionnaire. Bon, je connaissais, j'avais entendu ce mot-là, mais en fait, c'est un parfum qui est extrait d'une plante aromatique provenant d'Inde. Donc vous voyez votre carte du monde, l'Inde, la Palestine. Bon, on comprend le prix du parfum. D'ailleurs, en général, on l'utilisait en petite quantité pour parfumer l'huile. Et ce qui est frappant dans ce que fait Marie, c'est qu'elle casse le col du vase et elle répand tout le parfum. Dans le texte qu'on a lu, l'évangile de Jean dit c'est une livre, 500 grammes, la moitié d'un kilo de parfum. Vous imaginez ? Hein, ce n'est pas les quelques gouttes qu'on se met. Voilà. Ce n'est pas un petit hommage que Marie rend à Jésus. Alors, en quoi Marie est-elle un exemple à suivre ? Alors, rassurez-moi, vous n'allez pas venir dimanche prochain avec 500 grammes de parfum et embaumer le prédicateur. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Non, il s'agit de se souvenir que Marie a su, lorsque l'occasion s'est présentée, montrer son amour pour Jésus. Son geste d'onction avec du parfum est un témoignage puissant de son adoration. Elle fait un cadeau de grand prix et témoigne à tout son entourage, parce qu'on imagine que 500 grammes de parfum, ça a dû embaumer toute la maison et plus, je pense. C'est un grand témoignage qu'elle rend là. Elle honore Jésus et témoigne de son amour pour lui. Elle est pour nous un exemple d'amour, de générosité, de témoignage et, je l'ai déjà dit, de discernement des choses essentielles. Que pensaient des critiques formulées à son encontre ? Quand on lit les textes parallèles, Jean précise que c'est Judas qui s'écrit « Mais pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Et il continue en disant, il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Dans Matthieu, le récit est rédigé ainsi, les disciples manifestèrent leur indignation. Et dans Marc, quelques-uns s'indignèrent et murmurèrent entre eux. Pourquoi gaspiller ce parfum? Il est à craindre que les disciples se soient laissés influencer par le cri du cœur de Judas. Mais pourquoi est-ce qu'on gâche tout ça? Effectivement, garder une somme d'argent pour la donner aux pauvres, ça aurait été une bonne action. J'ai lu dans un commentaire en plus qu'à l'époque de Pâques, c'était la coutume de donner aux pauvres plus que d'habitude. C'est peut-être ce contexte qui a poussé les disciples à critiquer Marie. Mais il me semble que Jésus dit ici aux disciples qu'il faut savoir, en effet, discerner les temps et les priorités. Il peut y avoir des exceptions à une règle qui est généralement bonne. Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Et peut-être qu'il nous arrive parfois de penser qu'il y aurait mieux à faire que ce qu'on voit faire. Jésus lui a discerné l'intention de Marie, et je pense que là aussi c'est un exemple à suivre. Demandons-nous pourquoi il ou elle agit ainsi. Marie a peut-être, sans en être pleinement consciente, fait ici un acte prophétique, c'est ce que souligne Jésus. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. C'est probablement Dieu qui lui a inspiré ce geste aussi, qui prépare les choses. On ne sait pas toujours pourquoi les choses arrivent. Et en disant tout le temps qu'il y aurait peut-être eu mieux à faire, ben peut-être que quelquefois on va contre la volonté de Dieu. Si nous continuons la lecture, nous allons voir un contraste saisissant. À la suite de tout cela, donc vous voyez, Judas vient d'assister à cette scène, Judas Iscariot, l'un des 12, alla trouver les chefs des prêtres pour leur proposer de leur livrer Jésus. Sa proposition les réjouit, bah oui, ça on s'en doute, et ils promirent de lui donner de l'argent. Dès lors, il chercha une occasion favorable pour leur livrer Jésus. Est-ce que Judas a été vexé de voir que Jésus ne l'écoutait pas quand il reprochait à Marie d'avoir gâché ce parfum? Toujours est-il qu'il s'en va et il va voir les sacrificateurs. On ne saura pas vraiment quelle est la motivation de Judas, pourquoi il le fait à ce moment-là. Mais c'est à ce moment-là qu'il choisit d'y aller pour conclure avec eux un marché. Il leur livrera Jésus contre une somme d'argent. Et nous connaîtrons par la suite le montant de la somme convenue, 30 pièces d'argent. Alors, il n'y a pas besoin d'être mathématicien pour comparer 30 à 300, hein, y a un zéro de plus. Hein. D'accord? Donc c'est 10 fois plus. Voilà. Comment Marie honore Jésus et comment Judas vend Jésus. 30 pièces d'argent, j'ai vu dans un commentaire, c'est le prix d'un esclave. Pour nous, Jésus, c'est un roi. Pour Jésus, pour Judas, c'est la valeur d'un esclave. Mais avançons dans le texte. La suite du chapitre, les versets 12 à 16, nous rapporte comment les disciples suivirent les instructions de Jésus pour préparer la Pâque. Et je ne lirai qu'un seul verset, le verset 16. Les disciples partirent, ils arrivèrent à la ville, trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit. Ça ne nous étonne pas, hein. Et ils préparèrent le repas pascal, puis arrive le temps du repas. Je pense que vous avez reconnu le tableau, il est quand même suffisamment célèbre. C'est la scène de Léonard de Vinci. Et je me disais en même temps, c'est pas du tout la réalité, c'est pas comme ça que ça s'est passé. On ne faisait pas des banquets sur des grandes tables assis sur des chaises à l'époque. Ils étaient probablement couchés, je veux dire, probablement en rond dans une pièce. Et puis, quand on parle de tremper le pain dans le plat, etc., ben oui, là, c'est un peu difficile pour celui qui est au bout. Enfin, vous voyez, bon. Néanmoins, J'ai essayé de m'amuser à regarder un peu, parce que quand on regarde les commentaires sur la toile, on nous dit ben, « le peintre a essayé de traduire les expressions ». Et je ne vous ferai pas attendre pour savoir où est Judas. Il est... Alors, je ne sais pas si ça marche, ça, quand on... Ah, si. Quand on zoome là-dessus, on voit que là, il a le petit sac avec les pièces. Hein, donc, le peintre a anticipé déjà. Mais venons-en au texte. Le soir, Jésus arriva avec les 12, et pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, il leur dit « Vraiment, je vous l'assure, l'un de vous qui mange avec moi me trahira. » À ces mots, ils devinrent tout tristes, et l'un après l'autre, ils lui dirent « Ce n'est pas moi, n'est-ce pas ?» Alors il reprit « C'est l'un des 12, celui qui trempe son morceau dans le plat avec moi. » Je ne sais pas comment vous réagissez ça, mais il y a des moments où on se dit « Mais tu ne pourrais pas être un peu plus clair Seigneur, enfin, bon. » Et Jésus continue en disant « Certes, le Fils de l'homme s'en va conformément à ce que les Écritures annoncent à mon sujet, mais malheur à celui qui trahit le Fils de l'homme, il aurait mieux valu pour lui n'être jamais né. » Il y a plusieurs choses qui m'interpellent dans ces versets. D'abord, les disciples qui disent « Chacun des disciples qui dit « Est-ce que c'est moi ?» Est-ce qu'il se pose vraiment la question ? Vous vous rappelez, il y a peu de temps avant, ils étaient en train de se demander lequel d'entre eux serait le plus grand, lequel serait assis à la droite ou à la gauche de Jésus. Et là, ils en sont à douter si c'est eux qui vont trahir ou pas Jésus. Il faut dire que Jésus leur a annoncé à plusieurs reprises que l'un des 12 trahirait. Et souvenons-nous que Pierre, qui était si convaincu que jamais, lui, non, jamais, il ne trahirait Jésus, eh bien, peu de temps après, il va le renier 3 fois. Cela doit nous pousser, je pense, à demeurer humbles et à prier Dieu de nous préserver contre notre faiblesse. Je pensais, en préparant à des témoignages qu'on a entendus dans des journées de l'Église persécutée. Comment réagirions-nous si on nous demandait de trahir ou de renier Jésus ? Je crois qu'on ne le sait que quand on est face à l'épreuve. On peut dire des tas de choses avant, mais le moment venu, on ne peut pas savoir. Et je pense que là, on comprend mieux l'interrogation des disciples « Est-ce que c'est moi ?» Matthieu 26, 25 est beaucoup plus explicite. Quand Judas, à son tour, demanda « Maître, ce n'est pas moi, n'est-ce pas ?» Et là, on se dit « Mais il est gonflé, le type, quand même. » Il vient d'aller négocier la trahison, et devant Jésus, il dit « Mais c'est pas moi, n'est-ce pas ?»« Tu le dis toi-même, » répondit Jésus. On a envie de dire de Judas « Mais quel hypocrite !» Pourtant, j'aime pas, en général, comment je veux dire, dire du mal des personnages bibliques. Mais là, quand même, on se dit, avec ce qu'il vient de faire, oser poser cette question comme ça. On sait bien sûr que Jésus n'est pas dupe. Cette fois, Jésus ne laisse pas les disciples sans réponse. Dans l'évangile de Jean, il est dit « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Nous qui, depuis le début de cette prédication, savons qui va trahir Jésus, eh bien là maintenant, c'est clair, le traître a été désigné, c'est Judas, c'est lui qui va être un rouage essentiel dans l'arrestation de Jésus, qui va mener à son jugement, puis à la mort sur la croix. Et pourtant, j'ai commencé par qui est Marie, mais qui est Judas ? Alors bien sûr, la première question, la première réponse qui nous vient, c'est celui qui a trahi Jésus, mais il y a eu un avant. Judas, c'est l'un des 12. Il a été choisi par Jésus pour être apôtre. Apôtre, je veux dire, un des 12, c'est pas rien. Il a passé 3 ans en compagnie de Jésus. Il a été témoin de tous ses miracles. Il a été envoyé, on ne sait pas avec qui, mais quand Jésus les a envoyés 2 par 2, ils sont revenus en disant, mais les démons nous obéissaient, on a vu des maladies, des guérisons, on a vu des tas de miracles. Il a vu tout ça. Pierre dira dans Actes 1, verset 17, « Cet homme était l'un des nôtres. Il a eu sa part dans le service qui nous a été confié. » Eh bien, même si Judas a un temps collaboré avec les disciples, s'il a participé, s'il a fréquenté les bons milieux, il est quand même appelé le fils de perdition. Malgré tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a vu, tout ce qui lui a été appris, donné, il n'a pas cru en Jésus. Et même si sa trahison a été annoncée, Jésus prononce cette sentence, « Si le Fils de l'homme s'en va conformément à ce que les Écritures annoncent à son sujet, malheur à celui qui trahit le Fils de l'homme, il aurait mieux valu pour lui n'être jamais né. » Tout avait été annoncé d'avance. Est-ce que ça veut dire que Judas n'est pas responsable de sa trahison ? C'est une question que j'ai trouvée difficile à réfléchir et je vous avoue que par confort et par sécurité, je vais me contenter de vous lire un passage d'un commentaire que j'ai trouvé qui résume assez bien ce que je crois. Ce commentaire, c'est un commentaire de Warren Wiersbe, j'avoue que je ne connaissais pas, j'ai acheté ce commentaire sur l'évangile de Marc quand on a commencé cette série. Le titre du commentaire, c'est « Soyez appliqués », c'est une série. Et voilà ce que dit donc ce commentateur. Judas ne fut ni un martyr ni un robot, mais un être humain responsable, prêt à prendre ses propres décisions et qui, ce faisant, accomplit la parole de Dieu. Il ne faut en faire ni un héros, vous savez le héros qui se serait sacrifié parce qu'il fallait bien que quelqu'un le fasse, ni la victime impuissante d'une prédestination impitoyable. Judas fut perdu pour la même raison que des millions de gens aujourd'hui, il ne se repent pas de ses péchés et ne croit pas en Jésus-Christ. Si vous n'êtes jamais passé par la nouvelle naissance, un jour vous souhaiterez n'être jamais né du tout. Ce sont des mots très forts qui expriment une réalité. Celui qui n'est pas né de nouveau va connaître le jugement éternel. Et vous connaissez la parabole de Lazare et du riche. On parle souvent de pleurs, de grincements de dents. Quand on parle d'enfer, c'est pas qu'un mot. Fin de la citation. Alors bien sûr, Matthieu 27,3 nous dit que Judas fut pris de remords. Il alla rapporter au chef des prêtres responsables du peuple les 30 pièces d'argent. Mais les prêtres n'en ont pas voulu. Ils savaient bien que c'était un acte de trahison et qu'ils avaient quand même suffisamment de respect pour le trésor du temple pour ne pas y remettre ces pièces qui avaient été corrompues. Des remords, oui, mais pas de repentance, c'est pas la même chose. Judas reconnaît sa culpabilité lorsqu'il déclare en Matthieu 27,4 « J'ai péché en livrant le sang innocent ». La confession des péchés. Mais plutôt que de demander le pardon de Dieu, il choisit la mort et se condamne lui-même en reconnaissant de ce fait sa culpabilité. Il jeta les pièces d'argent dans le temple, partit et alla se pendre. Le parallèle avec Pierre, enfin en tout cas pour moi, s'impose. Pierre aussi, d'une certaine façon, a trahi, mais il a demandé pardon à Jésus. Judas a trahi, mais il est allé se donner la mort. On le voit d'ailleurs, même du vivant de Judas et de Jésus, il continuait à voler l'argent de la bourse, s'il avait changé dans son cœur. Alors qu'est-ce qu'il espérait en restant auprès de Jésus? On peut se le demander. Est-ce que Jésus, c'était « the place to be » C'est là qu'il fallait être. C'est là qu'était l'actualité. C'est là qu'on pouvait gagner des sous, avoir un rôle important, etc. On ne sait pas pourquoi tout ça. Mais on voit où ça l'amenait. Et nous en arrivons donc au dernier verset du passage de ce matin, où Jésus institue la scène. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux qu'il donna à ses disciples en disant « Prenez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe, remercia Dieu et la leur donna. Ils en burent tous. Alors il leur dit « Ceci est mon sang par lequel est scellée la nouvelle alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes. » Beaucoup, pas tous, hein, beaucoup. Vraiment, je vous le déclare, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. Vous imaginez les circonstances. Et ce verset 26, il est quand même très étonnant. Ils chantèrent les psaumes de la Pâque, ils sortirent pour se rendre au mont des Oliviers. Alors je vous l'ai dit, j'ai fait le choix de mettre l'accent sur Marie et sur Judas. Donc je vais me contenter de quelques remarques très brèves sur la scène. J'ai un peu l'impression de les dire pour la 50e, la 100e ou la 200e fois, je ne sais pas, excusez-moi si vous avez l'impression qu'il n'y a rien d'original. Mais lorsque Jésus dit « Prenez ceci et mon corps », nous ne croyons pas dans notre famille d'église que le pain que nous partageons soit transformé en corps de Christ, mais qu'il demeure du pain qui symbolise le corps de Jésus-Christ. Il en est de même pour le vin qui symbolise le sang de Christ versé à la croix. Calvin considère que si le corps physique de Christ est au ciel, son esprit est réellement présent dans le pain et le vin de la communion. J'ai entendu une fois une réflexion de Jacques Nussbaumer dans un ref qui disait « Ce que tu dis là en ce moment sur la conception du pain et du vin, ça veut dire que Jésus il est absent pendant la scène. » Ça paraît quand même énorme d'arriver à ça, quoi, je veux dire. Je pense que quand on commémore la mort de Jésus, Jésus il est présent. Déjà, il est présent au milieu de nous quand on est rassemblés et tout, mais peut-être encore plus au moment de la scène. Pour Calvin, c'est par l'esprit que Jésus est présent au milieu de nous. Je cite Jules-Marcel Nicole dans son précis de doctrine chrétienne. « Quand je participe à la Sainte Cène, le Seigneur se communique à moi par son esprit, selon sa promesse, pour entretenir et renouveler une vie chrétienne. De même que notre corps a besoin d'être nourri régulièrement, le pain et le vin sont des aliments spirituels qui régénèrent notre être spirituel. » Jésus a instauré la Sainte Cène lors d'un repas pris avec les disciples. Il y a donc une dimension communautaire. Mais en même temps, Paul écrit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, « Comme il n'y a qu'un seul pain, malgré notre grand nombre, nous ne formons qu'un seul corps, puisque nous partageons tous ce pain unique. » Qui peut participer à la scène? Il y en a peut-être parmi nous quelques-uns qui se posent encore la question. Dans le texte, il est dit que tous les disciples burent à la coupe. Est-ce que ça veut dire que tous les présents doivent y participer? Non, clairement. Chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur et ceci jusqu'à son retour. Quand on annonce quelque chose, il faut annoncer quelque chose en lequel on croit. Il faut être honnête dans ce qu'on avance. Donc pour participer à la scène, il faut croire en la mort de Jésus, et pas seulement à la mort historique, mais à ce qu'elle symbolise, la mort à notre place pour endosser notre punition et croire qu'il est ressuscité et qu'il reviendra. Participer à la scène, c'est une forme de confession de foi, comme le jour de notre baptême, lorsque nous avons confessé notre foi en Jésus. Néanmoins, aucun texte de la Bible ne dit qu'il faut être baptisé pour participer à la scène. Donc peut-être qu'il y a des circonstances où on peut être un peu plus souple. Si la règle générale, c'est on demande aux gens d'être baptisés pour participer à la scène, il peut y avoir des cas particuliers où on pourrait envisager cette participation sans baptême. Pour participer à la scène, il faut prendre cela au sérieux et pas par habitude. 1 Corinthiens 11, vous connaissez bien, « Quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. Deux remarques. C'est pas forcément facile, quand on fréquente la rue Sonnera depuis des années, quand on y est né comme Dino, de laisser passer le pain et le vin ce jour-là, parce que peut-être qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les autres là, s'ils voient qu'aujourd'hui je prends pas la scène, qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais moi je me dis que si vous voyez un jour quelqu'un qui habituellement participe à la scène, ce jour-là il n'y participe pas, ben vous avez de bonnes raisons pour prier pour lui. La bonne réaction, ce n'est pas de chercher à savoir pourquoi il ne participe pas. Ça, c'est son problème, ce n'est pas le vôtre. C'est simplement de prier pour lui. Et puis pour moi, c'est la preuve que cette personne attache du prix à la scène. Et je me suis dit, en préparant ça, mais Philippe, ça fait combien de temps que tu as laissé passer le plat? Je ne dirais pas, mais ça fait longtemps. Et je crois que j'ai eu du tort à certains moments de ne pas le faire. Deuxième remarque, la scène a une dimension communautaire. Nous mangeons du même pain. La parole nous exhorte à examiner nos relations avec nos frères et nos sœurs aussi. Être prêt, comme dit Jules-Marcel Nicole, à pardonner les torts qu'ils ont envers nous et nous humilier de ceux que nous avons envers eux. Dans la première épître aux Corinthiens qu'on avait étudiée il y a quelque temps, eh bien on voit que le mauvais exemple où les gens mangent chacun de leur côté, s'attendant pas, etc. Qui peut participer à la scène? Eh bien, sûrement pas des chrétiens sans défaut, parce qu'il n'y en a pas. Donc si vous attendez d'être suffisamment saint pour participer à la scène, ben, vous attendrez tout le temps. D'ailleurs, les disciples, qu'est-ce qu'ils vont faire dans les heures qui suivent? Ils vont tous abandonner Jésus, comme une nuée de moineaux, là. Ils vont tous partir. Et pourtant, Jésus, qui savait tout cela, dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. » avant de souffrir. Jules-Marcel Nicole, encore lui, j'avoue que c'est un auteur que j'aime beaucoup, je trouve qu'il a le don de dire en quelques phrases, il vous résume trois chapitres. Voilà, vous avez un paragraphe de 10 lignes, tout est clair. Il résume ceci en disant, nous devons être convaincus de notre indignité naturelle pour communier dignement. Nous devons être convaincus de notre indignité naturelle pour communier dignement. C'est bien des gens qui n'en sont pas dignes, qui participent à la Sainte Cène. Et quand on repense à ce verset que j'ai lu, là, que chacun s'examine soi-même, quel est le but? Le but, ce n'est pas que vous ne participiez pas, parce qu'il est dit que chacun s'examine sérieusement lui-même et qu'alors il mange. Le but, c'est qu'on participe à la scène. Si quand on annonce que le temps de la scène va arriver, qu'on appelle les gens ici pour aider à la distribution, vous avez le temps de faire votre examen de conscience et de dire « Seigneur, pardonne-moi ceci, etc. » et participer à la scène. Si vous êtes brouillé avec un frère, c'est peut-être pas le bon moment pour aller le voir et vous expliquer avec lui. Vous avez raté l'occasion plus tôt, mais voilà. Le but de ce commandement, c'est que nous participions à la scène. Enfin, vous avez remarqué, comme moi, que avant de consommer le pain et le vin, Jésus prend le temps de rendre grâce à Dieu à chaque fois. La scène nous donne l'occasion de dire notre reconnaissance à Dieu pour le don de son Fils. Un don que Jésus avait lui-même consenti par obéissance à son Père. J'en arrive à ma conclusion. Voilà deux personnages, Marie et Judas, qui ont eu tous les deux le privilège de croiser Jésus, mais qui ont choisi de suivre des chemins totalement différents. Marie est passée à la postérité, comme Jésus l'avait annoncé, pour avoir embaumé le corps de Jésus. Judas, lui, il est passé à la postérité pour un baiser. Le baiser de Judas, C'est aussi ce qu'on appelle le baiser de la mort. C'est le signe d'une infamie. Souvent on dit il n'y a pas pire. Bien qu'il ait vécu 3 ans aux côtés de Jésus, Judas ne lui a pas donné son cœur. Il en a même profité pour continuer à voler, détourner de l'argent et trahir Jésus. Il en a éprouvé des remords, mais il n'a pas demandé à Dieu de lui pardonner, et cela l'a conduit à la mort et à la mort éternelle. Marie, au contraire, s'est mise à l'écoute, une écoute attentive. Elle l'a aimé, elle a manifesté son amour par cette onction de parfum. Et Jésus la donne en exemple. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, on racontera aussi ceci en mémoire de cette femme. Ce que Marie nous enseigne, c'est qu'il est bon d'être à l'écoute de Jésus et de lui rendre les honneurs qui lui sont dus. Elle a fait ce qu'elle a pu, nous rappelle que Jésus s'attend à ce que nous fassions ce que nous pouvons faire, ni plus, ni moins. Marie a su, quand il le fallait, faire une pause dans ses activités pour être à l'écoute de Jésus. Prions Dieu de nous donner le discernement de Marie et de nous aider à faire ce que nous pouvons. Amen.